Question d'actualité format estival, Julien Coronne au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Il nous reste trois jours ensemble avant le retour à la programmation habituelle avec Jean-Philippe Trottier du lundi au vendredi et moi le vendredi à 11h30, de 11h30 à midi avec Le Monde d'aujourd'hui. Mais d'ici là, trois épisodes et pour ce premier épisode, on reçoit André Lamoureux, professeur ou professeur à la retraite de l'UQAM. Bonjour André.
Oui, bonjour Monsieur Corona, mais je ne suis pas à la retraite.
Pas à la retraite actuellement. Oui.
Retraite au secteur public.
Retraite secteur public. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait, j'avais compris la retraite, vous aviez
affilié
comme ça.
Non, je suis encore à l'UQAM.
De ce qu'on discutait ensemble en pré-entrevue, quand on préparait un peu ça. Et avec toi, on va revenir, on avait déjà discuté de beaucoup de choses en matière politique dans de précédentes entrevues. On va revenir sur ces 10 premiers jours de campagne. Et 10 premiers jours de campagne, comme d'habitude à chaque campagne, on fait miroiter de belles choses. De belles choses qui sont souvent atteignables, voire irréalisables, et qui peuvent même parfois gruger au niveau stratégie électorale les électeurs et gruger aussi les perspectives d'expansion du vote. Et on va pouvoir en revenir, surtout à propos de Québec solidaire, au cours de l'entrevue. Ma première question, une question assez simple, c'est qu'est-ce que tu penses de ces 10 premiers jours de campagne?
Oh, ben la première semaine, c'était vraiment... chaque parti y allait de ses promesses économiques en particulier. Ouais. C'était flamboyant de tous les côtés, mais surtout même du côté d'Éric Duhaime et le Parti conservateur, c'était assez frappant. Mais aussi Dominique Anglade, qui a tout avancé une panoplie de propositions parce que étant tellement embourbée avec son parti, c'est qu'elle a estimé que c'est de cette façon-là qu'elle gagnerait le cœur des Québécois en lançant toutes sortes de promesses de nature économique. De baisse d'impôts, enlever les taxes sur les factures d'Hydro-Québec. Bon, là, il y avait une longue liste. Et puis, même chose, mais évidemment, ça dépend. Ça respecte les idéologies de chaque parti. Éric Duhaime, lui, il est allé avec ses propositions d'annuler, en tout cas, du moins temporairement. Mais lorsqu'on annule lorsqu'on retire une taxation en général, temporairement, c'est très difficile de revenir ensuite avec. Enlever la taxe sur l'essence et puis baisser les impôts également.
Ça diminue, réduire la taille de l'État, la taille et la présence
la taille de l'État. Privatiser la société des alcools. C'est absolument catastrophique que de proposer ça, à mon sens.
Surtout quand
on sait à Québec solidaire, elle gagne la palme d'or. Avec des propositions qui visent toujours la même chose. Québec solidaire, c'est toujours ça, ces campagnes électorales. C'est que on promet pour des dizaines de milliards sur des objectifs totalement inatteignables, totalement irréalisables, même en environnement. C'est une vraie blague de dire que d'ici 7 ans, Québec pourrait réduire
de 55% ses émissions de gaz.
C'est incroyable. On a baissé 3% de 1990 à 2002.
Et c'est une question qui est, comme on en parlait un peu en pré-entrevue, ce genre de choses, ce sont des éléments un peu qui, à mon sens, c'est qu'on veut promettre à l'électeur de changer d'air, si on reprend
surtout
le slogan.
Surtout pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience politique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un ministère des Finances non plus.
C'est ça.
Parce que j'écoutais les autres propositions, puis au fur et à mesure que je les écoutais, je me disais, les soupapes du ministère des Finances sont en train d'exploser.
Mais la question de quand on parle de changer d'air, surtout sur la question environnementale, c'est que quand on veut proposer en 7 ans de réduire de 55% les gaz à effet de serre, c'est des objectifs, il faut réduire les gaz à effet de serre, mais à ce niveau-là, en aussi peu de temps, c'est limite forcer un changement de mode de vie. Et le but d'une campagne électorale, c'est pas, on va vous dire, on va vous forcer, limite, de manière coercitive,
il faudrait quasiment
à changer.
Faire disparaître toutes les voitures, là, quelque chose comme ça, ça n'a aucun sens. Mais ce qui m'agace de plus en plus du côté de Québec solidaire, c'est sa perspective de s'en prendre aux individus. Moi, je trouve ça assez étonnant.
La taxation sur les VUS?
Oui, mais je vais faire un parallèle avec autre chose. Je trouve ça assez étonnant que depuis des années, Québec solidaire nous explique qu'il y a un racisme systémique au Québec. Moi, je ne crois pas à ça. C'est pas vrai. Je l'ai aussi. J'ai d'ailleurs moi-même soumis un rapport à cet effet au gouvernement lors de la consultation. Mais lorsqu'il s'agit de l'environnement, ce n'est plus systémique, mais c'est les individus qui doivent payer avec le véhicule, leurs habitudes de vie, vivre à la campagne, revenir on va redensifier la population dans les centres-villes, des bicyclettes, tout le monde. Gabriel Nadeau-Dubois ne fait pas sa campagne électorale en bicyclette, là, il est en autobus. Puis bon, alors, donc c'est ça. Donc on pénalise, taxer les véhicules là, les VUS, les plus gros véhicules. Là. Faut vraiment ne pas avoir d'enfants et vivre un petit peu éloigné du centre-ville, là, du plateau, pour ouais. imaginer une chose pareille. Moi-même, j'ai deux grands-grands, 17-19 ans, je n'arrête pas de me promener. Ma fille enseigne en natation, elle est sauveteur national, je pars d'une piscine à l'autre, je travaille, je vais à l'UQAM, je joue dans deux ligues de hockey, je transporte mes stocks.
C'est au-delà de la viabilité électorale des propositions. Est-ce que ce sont véritablement, même au-delà de QS, les autres propositions environnementales qui ont été posées, même des propositions économiques, est-ce que ce sont des propositions qui sont adaptées au tissu québécois tel que le Québec est conçu actuellement?
Non, totalement.
On souhaite vendre du rêve alors que c'est impossible à atteindre et impossible à réaliser. Donc, est-ce qu'il y a une déconnexion entre le politique et l'électeur où on souhaite jouer un peu l'opposition à outrance pour aller chercher des votes faciles?
C'est un grand mensonge que Québec solidaire prétend parler au nom des classes moyennes, puis il frappe sur les classes moyennes. Et là, il frappe encore aujourd'hui avec la question de la surtaxe là, des revenus des gens dits des ultra-riches. Et des ultra-riches, selon Québec solidaire, ça me fait penser, il y a quelques... C'est 1 million de dollars. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait du capital actif de 1 million serait des ultra-riches. On est toujours dans la même rengaine. Il y a quelques élections, Québec solidaire voulait taxer, monter, ajouter un nouveau stade d'imposition, un nouveau degré d'imposition pour les familles dites riches. Et dans son calcul, une famille dite riche, c'est une famille qui avait un revenu de 80 000 $. C'est pas une famille riche, ça.
$80 000, même individuellement, quand on sait les taxes, quand on sait la
les
part
enfants, des taxes. Les taxes, les impôts, ce qui reste,
toutes les charges, tout ce qui est charge.
C'est vivre durement, là, même une famille avec deux enfants, 80 000 $, c'est pas vrai, vraiment pas riche. Alors donc, ils s'attaquent en fait à tous ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui ont amassé des régimes de retraite. Moi, je suis dans cette situation-là, puis je gagne pas une fortune, je vais vous dire. Là, j'ai fait 36 ans d'enseignement collégial. Et ensuite, on dit, ben là, vous avez travaillé toute votre vie, et puis là, on va aller vous surtaxer. Alors donc, c'est quand même incroyable. Le Parti québécois, avec René Lévesque, avait désindexé les régimes de retraite dans le secteur public de 82 à 1999. Ouais. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois lui propose d'aller encore tirer de l'argent de ça. Alors, j'en viens pas.
Et l'autre chose où vous proposez de tirer de l'argent dans les propositions, c'est quand on parlait des propositions économiques la semaine dernière, c'est quand on vend les baisses d'impôts pour aller chercher du vote facile. On propose aussi de prendre de l'argent dans le fonds des générations, donc c'est-à-dire pour les générations futures, pour financer des baisses d'impôts actuelles simplement pour des questions électorales. Donc, de l'autre côté, quand on voit les positions inatteignables du côté Québec solidaire et aussi du côté des positions non professionnelles du côté PCQ, on a aussi des propositions qui sont totalement électoralistes et donc populistes, qui n'ont aucun fondement de politique publique claire et nette du côté des autres partis. Donc on en est de nouveau encore avec une campagne où on vend du rêve sur le dos de populations à risque et on ne propose pas de faire avancer l'État tel qu'il devrait avancer dans une sphère moderne. Donc ça pose la question, est-ce que nos partis sont véritablement professionnels sur un aspect de stratégie politique?
Chaque parti, il va avec des propositions qui cherchent à aller chercher la plus grande portion de l'électorat, tout simplement. La CAQ, de ce point de vue-là, n'est pas si mal en termes de proposition, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont sûrement discutables, il n'y a pas de problème. Là. Aller piger dans le fond des générations, c'est la façon pour la CAQ d'aller chercher de l'argent, sans nécessairement réduire considérablement les impôts. Alors donc, chacun y voit sa solution, mais il y en a des propositions qui sont absolument... sans bon sens. Il y a des choses qui sont proposées. Par exemple, Éric Duhaime, privatiser la SAC, c'est catastrophique.
Quand on sait le nombre de milliards que la SAC rapporte en profit
à l'État, qui servent à construire des routes, qui servent à faire fonctionner les hôpitaux, les collèges, les cégeps, les écoles.
Totalement.
Et en plus... un des grands acquis de la SAC, c'est d'offrir une qualité et une disponibilité aussi de vin à travers tout le Québec Jusqu'aux villes les plus éloignées.
C'est ça, jusque dans les territoires les plus éloignés.
Et c'est une grande qualité de ce réseau de la SAC qui est public.
Et quand on sait qu'une privatisation, donc ça va être la recherche du profit principal, ce n'est pas, je pense, une capacité. On n'a pas une capacité à créer du profit quand on va proposer dans les endroits les plus loin, les plus éloignés de la côte nord, une succursale de la SAC pour permettre d'acheter du vin au bord d'une route abandonnée.
Et qu'est-ce qu'on vendrait aussi? Quelle qualité de vin serait vendu aussi? À quel prix aussi?
Totalement.
Et toute cette plus-value ne serait pas récupérée par l'État, la société. Ensuite, ce serait dans la poche des propriétaires de ces petits commerces.
Tu parlais du PCQ, ce qui me pose la question à propos. Donc c'est la première fois qu'on voit depuis probablement un siècle un parti conservateur du Québec assez fort, aussi fort dans des élections provinciales. Et un parti conservateur du Québec qui, quand même, est en sorte de transition. Ils étaient entre 1 et 3 % avant, passent entre 17 et 21 % dépendant de la firme de sondage en ce moment. Mais ne sont pas encore totalement professionnels au niveau de leur construction et au niveau de leur personnel politique. De l'autre côté, nous avons des propositions qui sont quand même assez tendancieuses, assez populistes. On parle de la SAC qui vont faire parler. On parle aussi pendant la fin de semaine de faire des crédits d'impôt pour les personnes qui font du gym ou du sport afin d'aller chercher une clientèle de gym qui serait plus potentiellement à vouloir voter CAQ. On parle d'aller chez...
Encore là, c'est de l'incohérence totale.
On parle d'aller chez Jordan Peterson.
Pourquoi qu'on ne donne pas aux familles des crédits d'abord pour les gens qui jouent au soccer, les gens qui jouent au hockey, ou les équipements de hockey, c'est que des fortunes, ou quelques autres sports, la natation, ou je ne sais trop, le ski, ou n'importe quoi. Donc, pourquoi les gyms, justement, on cherche une clientèle?
On va chez Jordan Peterson aussi, qui est quand même, pour ceux qui le connaissent, qui est quand même assez tendancieux au niveau des propositions qu'il explique et qu'il diffuse sur ses podcasts et dans les différentes entrevues et ouvrages où il peut être. Donc, on a quand même un aspect... Ces propositions-là et ces présences-là côté PCQ, des propositions assez inatteignables pour les autres partis, surtout QS pour toi, comme tu l'expliquais. Donc, est-ce qu'il y a un véritable professionnalisme dans la classe québécoise à la vue de ces campagnes? Et est-ce que ce manque de professionnalisme, s'il en est, ça implique une facilité pour la CAQ à se faire réélire et à potentiellement avoir un nouveau parti dominant de la politique québécoise
pour
les prochaines
années? C'est pas une question de non-professionnalisme de la part de la CAQ. La CAQ, elle domine dans les sondages pour une simple, pour une explication fondamentale. C'est le seul parti qui, dans le cours des 5, 6, 7 dernières années, a pris en charge lui-même la défense des aspirations nationales du peuple québécois sur la laïcité. Sur la question de la langue et sur la question de l'immigration. Et même en exigeant, à juste titre, la fermeture du rang Roxham. Le Parti québécois s'est éloigné de ces questions-là pendant des années. Parti québécois a proposé un mariage avec Québec solidaire.
L'alliance de Jean-François Lisée qui avait été refusée.
La convergence avec Québec solidaire. Alors ça a grugé tout son temps pendant 3 ans. Et même qu'un bout de temps, le Parti québécois, là, je ne veux pas nommer les noms de députés, même Jean-François Lisée, s'est détaché, s'est éloigné
de la question nationale.
La laïcité, la question nationale. Alors, Legault, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré sur le tapis en dessous des pieds du Parti québécois.
Il a récupéré la légitimité avec.
Tout à fait. Le meilleur exemple de ça, c'est la campagne de 2014, lorsque Pauline Marois était empêtrée avec le point levé de Pierre-Carl Péladeau, et elle a décidé de faire une élection sur un budget impopulaire, le budget de Marceau. Et là, elle était dans les débats, puis elle est empêtrée avec ça.
Alors que
et Legault,
si elle avait
à la fin, a dit, moi, je vais faire la laïcité sans la souveraineté. Là, à ce moment-là, Legault est passé de 15 % des voix à 24 à la fin.
Et l'exemple parfait, si on se souvient bien, avant la campagne, les premiers sondages, si la campagne stratégiquement avait été faite sur le point levé de Péladeau et surtout sur la charte de Drainville, alors que cette charte de Drainville, on disait qu'elle était raciste et autre chose, selon certaines. Si le Parti québécois avait assumé la position de la charte de Drainville, il aurait été réélu majoritairement. Donc, quand on parle de stratégie
électorale... En janvier, il y avait 40% d'intention de vote pour le Parti québécois sur la laïcité. Et puis, je peux vous en parler spectaculairement de ça. Moi, j'étais impliqué dans ce débat-là, à cette époque-là, très fortement, mais c'était 40%. Et donc... Et puis, je vais quand même revenir sur certaines choses. Les sondages vont bouger. Même moi, c'est je ça. Pense que, et je regarde aujourd'hui, là, je suis beaucoup Québec 125. Mm. Déjà, le PCQ avec ses propositions, surtout sa charge contre la langue française,
ouais,
ça va lui coûter cher. Là. De prendre une charge contre la loi 96 comme il l'a fait, ça va coûter cher.
La charge d'hier avec il y a une photo très évocatrice de la conférence de presse d'hier d'Éric Duhaire. On le voit avec un Bill 96. Ça faisait un peu le retour du Bill 96 barré, bien sûr, parce qu'on veut l'abolir. Faisait un peu le retour du Parti Égalité.
Oui, exactement. Et puis c'est vraiment. Et puis le discours à l'effet que je suis contre qu'on enlève des droits à la minorité anglophone, il n'y a pas de droit à envoyer à la minorité anglophone au Québec. Là. Et donc, ça a baissé. Même aujourd'hui, je vois que dans les trois circonscriptions où il avait une chance de monter, c'est en train de baisser, là, même dans Chauveau où il se présente. Et en Beauce-Nord, Beauce-Sud, c'était coude à coude. Et là, ce matin, on voit que la CAQ reprend les devants.
Et l'autre baisse dans les sondages qui est aussi intéressante, c'est la baisse de QS. Si on suit les sondages journaliers de Main Street, qui est quand même une firme de sondage qui va plus augmenter, sa méthode de pondération est plus favorable aux partis de droite et souvent moins favorable, surtout aux partis québécois, la manière comment ils choisissent leur sélection de personnes à interroger. On voit une baisse de QS et une hausse du Parti québécois.
Que le Parti québécois augmente aussi. Je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, même s'il est coincé dans les câbles en termes de positionnement, je trouve qu'il fait une campagne quand même pas si mal. Et
la campagne de QS, à mon sens, est au niveau stratégique, je la trouve pas bonne. Je sais pas ce que
tu en penses. Donc ça bouge. Moi, je pense que le Parti conservateur, ça va baisser. Mm. Et puis, pour QS, moi, je prévois qu'il y a un maximum de 6-7 sièges.
C'est 6-7 sièges. Plus. Tu vois où les pertes?
Ça veut dire que les pertes vont probablement se produire là où ils ont gagné avec les étudiants, là, à Rouyn, Sherbrooke. Mm. Tachereau, ils vont le garder possiblement. Mm. Mais même à Montréal, ils vont se faire un peu pousser dans les câbles par la CAQ.
Rosemont.
Rosemont, c'est serré encore.
Pierre-Luc Briand avec Rosemont.
On verra ce qui va arriver. Vincent Marissal est encore en avance, mais ça suffit que là les propositions de QS peuvent leur faire mal. Et puis moi, je veux quand même revenir sur l'ensemble de la campagne et par rapport à la situation du Parti libéral. C'est une catastrophe pour Dominique Anglade.
C'est ça.
Le Parti libéral est en train de s'effondrer en quelque sorte en termes d'appui. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti libéral, ses appuis, c'est l'Ouest de Montréal,
et l'Ottawa.
Puis dans à Gatineau, bref, chez les anglophones et les communautés culturelles. Mm. Et évidemment, ça va lui permettre d'avoir 14-15 sièges sûrs. Mm. Ça ne peut pas bien changer dans l'Ouest de l'île de Montréal. Mm. Mais il y a une chose qui est historique, qui est en train de se produire, c'est que Dominique Anglade est en train d'égaler un des plus tristes records de l'histoire du Canada pour ce qui est de l'opposition officielle éventuellement. Mm. Si le Parti libéral demeure l'opposition officielle, atteindrait un record de plus faible pourcentage de voix obtenue par une opposition officielle et le recul, c'est 1919.
Ah oui.
Alors donc, c'est quand même pas beau. On pourrait dire, quelle est votre réalisation, Mme Anglade? J'ai atteint le pire record de l'histoire.
Et c'est surtout deux énormes forteresses libérales sur l'île de Montréal qui risquent de tomber. On voit un sondage hier de la firme Ecos pour Verdun, où on a un affrontement entre la CAQ et Québec solidaire. C'est une forteresse de
Saint-Anne,
qui est la circonscription de Dominique Anglade, Saint-Henri-Sainte-Anne.
Maurice Richard, ça va tomber à la CAQ aussi.
C'est quand même des circonscriptions qui, jamais de la vie, on aurait pensé que...
Saint-Henri-Saint-Anne, non. Ben non, ça a toujours été libéral pendant des années et des années. Et puis, c'est ça ce que je veux vous signifier, c'est que... donc, ça fait en sorte que pour une première fois dans son histoire, le Québec va se retrouver avec possiblement une situation de changement de système partisan, c'est-à-dire avec un autre type de régime politique, peut-être temporaire, peut-être conjoncturel, mais c'est un régime de parti dominant. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un parti parti qui domine toute la scène politique et tous les autres partis sont en dessous de 20% et essaient de l'égratigner, mais sans pouvoir le toucher véritablement. Mmh. Et ça, c'est très rare. Là, on ne parle pas d'un régime de parti unique, pas en dictature, c'est en démocratie.
Mais ça, c'est rare. Un parti naturel de gouvernement.
On a vu ça en Suède de 1934 à 1932, je pense, à 1976, où le grand parti social-démocrate était tellement fort qu'il supplantait constamment ses adversaires et les renvoyait constamment à la marge.
Ouais.
Et là, c'est ce qu'on risque de voir, du moins pour 4 ans, c'est une situation de régime de parti dominant qui en dit long sur la...
Les gens vont dire,
oui, mais ça va être une domination parlementaire totale. Oui, mais de toute façon, même lorsque c'est un gouvernement majoritaire, c'est toujours une domination parlementaire totale de la part du gouvernement. Mais ça en dit long sur la faiblesse des partis d'opposition.
C'est ça, la faiblesse, donc la faiblesse de leur personnel politique, mais aussi la faiblesse de leur proposition.
Ben oui, c'est exactement.
Et donc, au niveau de partis dominants, parce que surtout quand on analyse, on va prendre l'exemple, est-ce que c'est lié au personnel du parti, aux propositions du parti, parce qu'on dit souvent que dès que le logo partira, c'est à partir de là que le combat sera peut-être plus égal, parce que la personnalité de logo est tellement forte dans l'opinion que c'est pour ça qu'il
est tellement fort. Regardez, c'est l'inverse du Parti libéral. Le Parti libéral n'a l'appui que de moins de 1 personne sur 10.
Ouais.
7% donc moins d'une personne sur 10.
Ouais.
Et la CAQ chez les francophones est à 51%, 52%, 53%, 54% d'appui.
Mm.
Alors c'est qui a gagné le problème du Parti libéral, c'est que Mme Anglade, dans son discours de début de campagne, elle a dit bien moi, votez vrai, là, les vrais enjeux, les vraies actions, tout ça.
Ouais.
Mais elle a dit moi je veux être le Parti libéral est le parti de tous les Québécois.
C'est ça.
Et je dis que les Québécois ont besoin du Parti libéral.
Mm.
Mais c'est parce que les Québécois pensent, c'est parce qu'il y a moins de 1 sur 10 des francophones qui veulent voter
le discours ne rejoint pas et les propositions ne permettent pas de le rejoindre. Et ensuite, quand
parce qu'elle a abandonné la nation. Moi, je considère que le Parti libéral actuel, c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est presque un appendice du Parti libéral canadien de Justin Trudeau. Parce que tout l'aspect national est abandonné.
Mm.
Lorsqu'il y avait Bourassa est un fédéraliste, mais il était quand même un petit côté nationaliste, et son ministre des Finances aussi, et Claude Ryan avec lui.
Mm.
Il n'avait pas peur d'affronter Pierre-Yves Trudeau.
Mm.
Et lorsqu'en 89, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la loi 101 en matière de charges, il y a eu une grosse manifestation d'à peu près 50 000 personnes. J'y étais sur place.
Mm.
Et à ce moment-là, Robert Bourassa a réagi puis a utilisé la clause dégradatoire, la clause non-obstant, pour protéger la loi 101.
Mm.
Et donc, ce qui fait que ça lui permettait de se protéger, même, en tout cas partiellement.
Et même la réaction à certains propos de ses candidats, si on prend un parti libéral, même sous Jean Charest, ses candidats auraient été virés du parti, malgré tout ce qu'on peut dire de Jean Charest sur son fédéralisme à outrance et autre chose. Il comprenait qu'une partie de la population et que le Parti libéral avait besoin
de... Oui, il battait beaucoup contre les ingérences d'Ottawa dans le domaine de la santé. Plus son discours, par exemple, il a changé complètement.
Totalement, oui, avec le parti...
Mais je vais ajouter à ceci ce que je vous dis. Donc, le Parti libéral a abandonné la nation.
Mm.
Et vous avez une candidate dans Mont-Royal qui dit que le Québec, c'est une province bilingue, puis le Québec doit être bilingue.
Le candidat de Villeray, Deepak, qui est le candidat de ma circonscription, Deepak Chauty.
Et puis, donc, Deepak à Ouassi
ou Chauty. Qui
alors, ça, c'est incroyable qu'une personne veuille au Québec devenir député et se faire élire par la nation.
Totalement.
Et en lui disant que, par ailleurs, je vous dis que vous n'existez pas.
Ouais. Et qu'il soit ensuite conservé comme candidat et qu'on le dise, nous lui avons parlé.
Ça, c'est pas loin du poutinisme. C'est pas loin du poutinisme, ça, parce que c'est exactement ce que Poutine explique. La nation ukrainienne, elle n'existe pas.
Mm. Donc il y a quand même différentes problématiques et toutes ces problématiques sont agrégées pour les partis autour de la CAQ font que la CAQ va être facilement réélue et créer ce problème ou plutôt ce système de partis dominants tel que vous l'expliquez.
Puis ça, si le Québec solidaire descend un peu, si le PCQ descend un peu, la force de la CAQ va être encore plus grande. Donc ça, en Sciences Po, on le sait au Québec, là, on l'explique souvent aux étudiants aussi, dans les sondages, lorsqu'un parti obtient évidemment 40 % là, il est confortablement assis sur un gouvernement majoritaire. Mais lorsqu'il monte à 42, 43, 44, 45, là, on s'en va dans les 95 sièges.
95, voire 100 sièges. Et ensuite, c'est quelque chose qui est très dur à rattraper, même sur l'élection future de 2026, et qui crée un peu pour la CAQ un potentiel de pouvoir vraiment s'installer fortement dans la durée.
Ben oui, c'est très, très, très fort. Là.
Et donc, ben merci beaucoup.
C'est vraiment, ça, moi, je trouve que les gens disent « Oh, la campagne électorale, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'enjeu. » Au contraire, il y a plein d'enjeux.
Il y a un enjeu sur le futur et sur le long terme. Qu'est-ce que va être la politique québécoise donc, pour les 10 prochaines, voire les 15 prochaines années?
Ben oui, ça peut changer énormément.
Ben merci beaucoup, André, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Je rappelle que tu es professeur à l'UQAM sur toutes ces questions de sciences politiques et tu reviens.
Chargé de cours. Ouais.
Et tu peux revenir quand tu veux pour discuter de la campagne électorale qui va être encore longue. Merci beaucoup, André. Merci à toi. Passe une bonne journée. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. On recevra Greenpeace pour discuter des propositions environnementales de la campagne électorale.